9h10 comme à Paris, on part fêter les 30 ans des clubs RFI avec Juan Gomez. Fêtez ça bien, Juan.
Oui, merci beaucoup et on fêtera évidemment les 30 ans tout au long de la journée. Martin Guez, très bonne journée. RFI, c'est à la radio.
Radio G. 101.5 FM.
Les 28, 29 et 30 novembre, venez à Mauges-sur-Loire pour la 3e édition du Forum des médecines de l'art.
Des conférences, ateliers et rencontres autour des pratiques thérapeutiques et artistiques qui éveillent la dimension spirituelle de chacun et chacune. L'entrée est libre, mais l'inscription vous est conseillée.
Rendez-vous au Forum des médecines de l'âme, un moment pour se ressourcer, se relier et s'inspirer. Plus d'informations et inscriptions sur forum-âme.com.
Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, l'émission qui aborde la santé sexuelle, la prévention et la vie affective de façon positive. On vous informe sur le VIH, sur les IST et on vous donne la parole pour partager à l'antenne vos expériences et vos vécus. Et aujourd'hui, l'émission est entièrement consacrée à la lutte contre le VIH, puisque nous sommes à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, qui a lieu, comme tous les ans, le 1er décembre. À cette occasion, plusieurs événements et actions ont lieu à Angers et aux alentours afin de sensibiliser le plus grand nombre et apporter des informations sur le VIH. Il y aura même du dépistage qui sera organisé un petit peu partout. On vous en dit plus dans la suite de l'émission. Nous allons aussi faire le point sur l'épidémie en France et dans le monde avec les dernières données actualisées. Et nous reviendrons aussi sur les enjeux et défis de la lutte contre le VIH-SIDA en 2025. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Florian. Bonjour Florian, comment ça va ?
Eh ben, bonjour Alima, eh bien, ça va toujours. Je suis ravi d'aborder ensemble le 1er décembre, une journée mondiale qui encore plus aujourd'hui est nécessaire et importante compte tenu des contextes politiques et financiers. Et toi Alima, comment ça va ?
Bah, moi aussi ça va, j'ai vraiment hâte de faire cette émission spéciale et de rentrer dans le vif du sujet. Car même s'il y a des aspects moins réjouissants, on va en parler, la question des financements mondiaux, je crois aussi très fort au pouvoir de l'information. Donc plus vous êtes informé, mieux vous êtes informé et plus grand sera votre pouvoir d'agir et d'influencer sur l'évolution de l'épidémie, en France comme dans le monde. Que ce soit par vos choix individuels, mais aussi en faisant pression sur nos responsables politiques, pour qu'ils et elles sachent que nous sommes attentifs et attentives à leurs décisions. Et on va en parler de tout ça maintenant dans Ondes Positives. Nous y voilà, comme tous les ans donc, c'est le 1er décembre qui revient et c'est l'occasion de donner un coup de projecteur sur l'épidémie de VIH et de SIDA dans le monde entier et de refaire un petit tour des informations à savoir. Alors peut-être qu'on peut déjà commencer par dire c'est quoi cette journée ?
Alors en fait, la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA a été lancée en 1998 à l'initiative de l'ONU. Et en fait, cette journée vise à sensibiliser les populations et les gouvernements au fait que le VIH-SIDA n'a pas disparu. Alors, il y aura des événements et des actions qui sont organisées dans le monde entier. Et c'est aussi une journée qui rend visibles les personnes vivant avec le VIH. Et d'ailleurs, cette journée, je crois qu'on commence à le connaître maintenant, est symbolisée par le ruban rouge.
Le fameux ruban rouge.
Le fameux ruban, voilà. C'est vraiment le symbole de la lutte contre le VIH. Et on le voit souvent, ce ruban, ou sous forme de drapeau, en fait, qui descend souvent sur les monuments. Ou sur les bâtiments officiels quand il y a des États ou des communes qui se mettent, qui font pas mal de choses et qui sont solidaires de cette journée-là et de la lutte contre le VIH. Et alors tous les ans il y a un slogan et cette année le slogan donc de la journée du 1er décembre c'est surmonter les perturbations, transformer la riposte au SIDA. Alors c'est la traduction française finalement du slogan en anglais, alors avec mon très joli accent anglais.
On attend de voir alors.
Overcoming disruption. Transforming the AIDS response.
Parfait.
Voilà. Bon, vous m'en voudrez pas. et donc, en fait, c'est une intention qui met fortement en lumière les difficultés de la lutte actuelle au niveau mondial et qui invite tous les acteurs à repenser les choses et à agir différemment pour maintenir un niveau suffisant d'action auprès des personnes et un niveau suffisant d'engagement, surtout des États, et notamment financiers, on en a parlé, mais on y reviendra tout à l'heure.
Oui, d'ailleurs, j'ai lu que récemment, alors la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, qui s'appelle Madame Bianima, elle a déclaré « En temps de crise, le monde doit choisir la transformation plutôt que le repli ».
Oui, effectivement. Alors en fait, ça fait explicitement référence à ce slogan, justement. Et d'ailleurs, les perturbations qui sont évoquées dans le slogan concernent à la fois la baisse des financements internationaux, comme je viens de le dire, mais aussi le contexte politique avec le retour de pensées réactionnaires ou de fake news au sujet du VIH et du sida. Et le retour d'informations erronées et d'amalgames, tout autant que les discriminations à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Alors peut-être, justement, on peut peut-être redire c'est quoi la différence entre le VIH et le sida. Est-ce que tu peux nous en parler, Anima ?
Je vais vous expliquer ça. Oui, parce que pour beaucoup de monde, c'est pas vraiment très clair. Il y a une confusion entre VIH et sida. Et puis, on sait peut-être que le VIH, c'est un virus. En fait, un virus, bah, c'est quoi exactement ? C'est pas toujours facile à comprendre. En fait, on aimerait bien avoir Maestro qui nous explique ça. Alors, je sais pas si tu vois de quoi je parle quand je dis Maestro. C'est le vieux monsieur avec sa longue barbe blanche dans la série animée « Il était une fois la vie ». Tu connais ?
Alors, je connais effectivement et je regardais quand j'étais petit d'ailleurs.
Voilà. Donc, bon, alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas eu la chance de grandir avec ce dessin animé des années 80, « Il était une fois la vie », déjà, vous avez loupé quelque chose. Et cette série des années 80, donc, est absolument géniale. Elle explique de manière assez poétique, assez ludique, comment fonctionne le corps humain. Bon, ça a un petit peu vieilli par certains aspects, mais c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, vous pouvez la redécouvrir ou la découvrir en entier sur la plateforme de France TV. Allons-y, pourquoi pas essayer d'expliquer c'est quoi le VIH à la manière de « Il était une fois la vie ».
La vie, 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 la vie. Et voici la vie.
Oui, alors dans « Il était une fois la vie », donc il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer, il y a les cellules du corps humain, les éléments du corps humain, ils sont représentés par des petits personnages qui se promènent dans le corps. Alors par exemple, il y a les globules rouges, qui sont des petits bonhommes rouges qui marchent dans les vaisseaux sanguins, ils transportent une bulle d'oxygène dans le dos, un peu comme Obélix avec son menhir. Alors par exemple, il y a les messagers du système nerveux, c'est des petits bonhommes bleus qui courent dans tous les sens très 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 vite. Il y a les enzymes, c'est des ouvriers avec des salopettes, enfin voilà, etc., etc. Il y a plein de petits personnages comme ça. Et puis, il y a les mauvaises bactéries, les virus qui sont représentés par des méchants personnages qui font intrusion dans le corps humain et qui se cachent pour se multiplier. Alors, ils sont là à se frotter les mains en faisant un rire de méchant, bien évidemment, voilà, comme tous les méchants. Mais pour se protéger, notre corps peut compter sur ses sentinelles. Alors, les sentinelles, c'est les lymphocytes, qui sont représentés par des hommes et des femmes en tenue spatiale qui patrouillent en survolant toutes les zones du corps humain dans leur petite capsule transparente. Et alors, dès qu'ils repèrent un intrus, donc un virus ou une bactérie, ils appuient sur un bouton, il y a une trappe qui s'ouvre, et alors là, ils lâchent tout un essaim de petits insectes, les anticorps. On assiste alors à une lutte sans merci, mais heureusement, à la fin, c'est le système immunitaire qui gagne à chaque fois.
Ouf.
Voilà. Bah, le VIH, c'est justement un virus.
Mais du coup, c'est quoi la différence entre un virus et une bactérie alors ?
Alors, donc, les bactéries, c'est des êtres vivants microscopiques. Et les virus, le monde scientifique est partagé. Est-ce qu'ils sont vivants ? Est-ce qu'ils sont pas vivants ? Ça dépend des définitions. Alors, c'est un petit peu, on va dire, c'est comme des morts-vivants, donc un petit peu des mini-zombies, on va dire, qui sont dans le corps humain. Les bactéries se multiplient elles-mêmes, par elles-mêmes, alors que les virus, ils ont besoin de s'accrocher à des cellules du corps humain, de les parasiter pour se répliquer. En fait, ils se servent tout simplement de la machinerie de la cellule, ils la détournent pour se multiplier. Et donc, les nouveaux virus qui vont apparaître vont s'attaquer à d'autres cellules du corps humain, et ainsi de suite. En fait, ça fait comme un film d'invasion de zombies, si vous voyez. Et donc, c'est, par exemple, si vous avez attrapé le virus de la grippe, le virus va envahir les voies respiratoires, et c'est là que le système immunitaire arrive, et il va lutter pendant plusieurs jours. Et c'est pour ça qu'on a de la fièvre et qu'on est épuisé. Dans la plupart des cas, le système immunitaire gagne la bataille par lui-même. Mais dans le cas du VIH, donc VIH ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Donc dans le cas du VIH, le problème c'est que ce virus, il s'attaque aux lymphocytes eux-mêmes. Donc vous savez, les lymphocytes, c'était les fameuses sentinelles du système immunitaire. Donc c'est celles-là même qui doivent lutter contre l'invasion de zombies, qui se retrouvent affaiblies parce que les zombies s'en prennent à elles. Mais elles continuent quand même de lutter vaillamment. Et en fait, dans le cas du VIH, cette lutte, elle va durer des années. C'est une lutte silencieuse, invisible, car elle ne donne aucun symptôme. Donc on peut parfois, au début de l'infection, avoir un état grippal, mais c'est tout. Après ça passe, on est juste en fait infecté par le VIH, mais on n'est pas malade.
Donc on peut vivre des années avec le VIH sans le savoir, même si on n'est pas dépisté.
Voilà, si on ne se fait pas dépister, on ne le sait pas. Mais si on se fait dépister et qu'on découvre qu'on est séropositif au VIH, on va pouvoir commencer son traitement. Donc le fameux traitement antirétroviral. Donc c'est un traitement qui est très efficace. Il aide le corps à lutter contre les virus en empêchant le VIH de se répliquer. Au point même qu'au bout de quelques mois, la charge virale, donc c'est la quantité de virus qui est présente dans le corps, va devenir indétectable. Et quand on suit bien son traitement et que donc cette charge virale est indétectable, en fait, on ne peut plus transmettre le VIH. Alors, c'est un traitement qu'on doit prendre à vie, parce que si on arrête de le prendre, la charge virale va remonter, et c'est à nouveau le système immunitaire tout seul qui va devoir livrer bataille alors qu'il est lui-même attaqué. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique, ou les personnes qui n'ont pas accès au traitement, le risque, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années environ, le système immunitaire va finir par s'épuiser. Le virus va réussir à se multiplier, la quantité de virus va dépasser celle des lymphocytes, et là c'est le stade SIDA.
Et alors qu'est-ce qui se passe ?
Alors quand on est au stade SIDA, SIDA ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise, on n'est plus seulement porteur du VIH, là on est malade. Alors ce qui se passe c'est que le système immunitaire il est tellement affaibli qu'il ne protège plus contre rien. On se retrouve vulnérable aux moindres germes, aux moindres maladies opportunistes, et au final ça va conduire au décès. Donc c'est important de faire la distinction entre les deux, car une personne vivant avec le VIH n'est pas une personne atteinte d'une maladie. Elle prend son traitement, et en prenant son traitement, elle fait en sorte que le VIH ne devienne jamais une maladie. Elle pourra ainsi avoir une espérance de vie identique à celle d'une personne séronégative. Et en prenant son traitement, elle vous protège également, en s'assurant qu'elle ne transmettra pas le VIH. Alors en France, beaucoup trop de personnes découvrent leur séropositivité très tardivement, et même au stade SIDA. Alors le traitement, si on le prend, il peut permettre de recontrôler sa charge virale et même de la faire redevenir indétectable et donc de ne plus pouvoir transmettre le VIH. Mais en fait, plus le traitement est pris précocement, plus il est efficace rapidement. Donc il ne faut vraiment pas attendre, n'attendez pas, faites-vous dépister, c'est le seul moyen de savoir où vous en êtes.
Merci maestro.
De rien.
Et du coup, c'est pour redonner de bonnes informations aux personnes que cette journée du 1er décembre existe, avec son lot d'actions et de stands de prévention. Et d'ailleurs, il y aura des actions sur Angers et alentour. Alors, pas forcément le 1er décembre, mais en tout cas, dans les jours qui viennent.
Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple ?
Alors, le mercredi 3 décembre, vous avez un stand de prévention au J-Angers Connecté Jeunesse, donc qui est Place Imbac. Et c'est de midi à 17h avec une auxambule et avec les professionnels de santé du centre Flora Tristan.
D'accord.
Ensuite, vous avez le vendredi 5 décembre un stand de prévention et de dépistage au bar La Cage sur Angers, c'est rue Boinet, avec un show drag. Et c'est co-organisé par l'association Aide et la House of Cocotte.
Ça, j'ai hâte.
Sinon, le 1er décembre, le jour même de la journée, vous avez des portes ouvertes au Cégide de Cholet, de 8h30 à 18h30, avec une offre de dépistage. Et puis, vous avez aussi à Nantes un ciné-débat à l'initiative de Aide Toujours. Donc c'est l'avant-première du film Il a suffi d'une nuit, suivi d'un débat avec les militants et militantes de Aide. Et c'est à 20h30 au cinéma Le Concorde, à Nantes.
Ok, donc ça fait pas mal d'actions, c'est chouette. Et là, c'est l'heure de la petite pause musicale dans notre émission. Et ensuite, on fera le point sur l'épidémie de VIH en France et dans le monde. On va parler des nouvelles découvertes de séropositivité, qui est concernée, combien de personnes vivent encore avec le VIH.
Mais avant ça, je crois, Alima, que tu avais envie de nous partager une petite chanson de Noël.
Oui, voilà, parce que c'est bientôt le mois de décembre. Et puis de toute façon, Maria Carré a dit que c'est bon, la saison des chansons de Noël était lancée. Donc, je vais vous passer une petite chanson de Noël. C'est une amie à moi, en fait, qui s'appelle Martha Jane, qui a fait une superbe chanson de Noël. Alors, des influences un petit peu jazz, pop. Donc, c'est vraiment très chouette. Ça s'appelle Christmas Cheer, donc de Martha Jane. Et on s'écoute ça. C'était donc Christmas Cheer de Martha Jane, que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne.
Traditionnelles.
Voilà, exactement. Et on vous mettra toutes les infos sur la page d'Ondes Positives, car vous êtes toujours sur Ondes Positives, sur Radio G 101.5 FM, où on échange autour de la santé sexuelle et où on vous aide à prendre soin de votre corps et de votre intimité. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler un peu chiffres et des dernières données concernant l'épidémie de VIH.
Et oui, puisque les données ont été publiées le 23 octobre dernier par Santé publique France. Alors en fait, c'est l'organisme qui assure la veille sanitaire, la prévention et l'éducation à la santé en France. Et elle concerne donc l'épidémie de VIH en 2024. Alors, commençons par dire quand même que le nombre de découvertes de séropositivité est en baisse depuis une dizaine d'années. Et c'est le fruit du travail des services de santé et des associations auprès des personnes concernées qui œuvrent sur le champ de la prévention et du dépistage. Et donc, en 2024, il y a eu environ 5100 personnes qui ont découvert leur séropositivité. Et ce nombre se stabilise après l'augmentation observée entre 2020 et 2023, due en fait au rattrapage des découvertes liées à la crise Covid, puisqu'il y a eu beaucoup moins de dépistage pendant la crise du Covid. Alors, si on parle d'âge des personnes qui découvrent leur séropositivité en 2024, la moyenne est de 36 ans. Et la plupart des personnes ont entre 25 et 49 ans. Et la part des personnes de plus de 50 ans, c'est à peu près 20%. Et cela concerne majoritairement des hommes cis, soit donc 68%, la plupart sont gays, 30% de femmes cis, majoritairement nées à l'étranger, et 2% de personnes trans. Sinon, donc parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité en 2024, 56% des personnes sont nées à l'étranger et 37% en Afrique subsaharienne. Et la moitié d'entre elles se contaminent sur le territoire français. Donc en fait, ce sont souvent des personnes qui sont éloignées du système de santé, du système de soins, de la prévention. Et puis, il y a beaucoup d'obstacles, notamment la langue, la culture et la précarité. Et en fait, cet accès difficile aux soins, donc qui est lié au pays de naissance, vraiment, c'est un des éléments qui explique que la baisse des nouvelles découvertes n'est pas forcément uniforme entre toutes les personnes. Puisque si les contaminations baissent pour les personnes qui sont nées en France, eh bien elles se maintiennent à un haut niveau, voire augmentent pour les personnes qui sont nées à l'étranger. Donc c'est le cas par exemple pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui sont nés à l'étranger. Et c'est aussi ce qui explique que 27% des diagnostics sont faits à un stade avancé de l'infection et souvent à un stade tardif. Alors donc ça, ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2020, mais reste quand même suffisamment haut en fait. Et donc je rappelle d'ailleurs que plus le diagnostic est précoce, plus les traitements vont être efficaces en ayant moins d'impact sur la santé des personnes. Et d'ailleurs, l'ONU a fixé un objectif, donc on appelle le 95-95-95.
Alors, c'est quoi le 95-95-95?
Eh bien, ce chiffre-là, cet objectif, c'est de faire en sorte que 95% des personnes sont dépistées et connaissent leur statut sérologique par rapport au VIH, que 95% ensuite soient sous traitement.
Alors 95% des personnes qui ont été dépistées.
Voilà, tout à fait. Et que ensuite, que 95% des personnes qui sont sous traitement sont en charge virale indétectable, donc ne puissent plus transmettre du tout le virus.
Et alors, le but de cet objectif, c'est quoi exactement?
Et bien en fait, c'est de casser les chaînes de contamination, vraiment, et de faire en sorte que les personnes, que le maximum de personnes soient dépistées, connaissent leur statut et soient en charge virale indétectable. Et d'ailleurs, en 2023, donc en France, il y a 94% des personnes qui vivent avec le VIH qui sont diagnostiquées. Il y a 96% de ces personnes-là qui sont sous traitement, et il y a 97% des personnes qui sont sous traitement qui sont en charge virale indétectable. Donc on est assez proche des 95-95.
C'est pas mal, c'est pas mal. On y est presque, on y approche.
On y est presque.
Voilà. Alors ça, bon, c'est sur le plan national, c'est des données nationales, mais alors j'imagine qu'il y a des disparités régionales.
Alors oui, en fait, l'épidémie en France, elle n'est pas uniforme. L'épidémie la plus forte se situe dans les régions d'outre-mer, notamment en Guyane, où elle est jugée préoccupante par Santé publique France. Ensuite, on a une épidémie qui est assez importante aussi en Île-de-France, puis en PACA et Occitanie. Et pour parler un petit peu de notre région, Pays de la Loire, en fait, on est parmi les régions qui ont les taux les plus faibles de découverte avec la Bretagne ou la Normandie, en fait. Tout l'ouest de la France, il y a des taux plus faibles.
D'accord. Alors, ça fait du coup combien de personnes qui vivent avec le VIH en France en tout?
Eh bien, alors en fait, j'ai des chiffres de 2022 qui disaient que 166 300 personnes étaient suivies en France. Donc ça, c'est selon les données de l'assurance maladie. L'âge médian des personnes qui vivaient avec le VIH en France était de 51 ans. Ce qui fait qu'en fait, en 2030, une personne sur deux sera âgée de plus de 60 ans.
Ah ouais, c'est incroyable quand même. On a du mal à se représenter ça comme ça.
Et ben oui, et c'est là qu'on voit en fait qu'il y a un fort enjeu autour de la question du vieillissement des personnes avec le VIH et de l'interconnexion en fait du VIH avec les autres pathologies qui sont liées, elles, à l'âge. Mais il y a encore des personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et donc du coup, Santé publique France estime qu'elles sont encore 9675. Donc à peu près 10 000 personnes ne connaissent pas leur statut sérologique et vivent avec le VIH sans le savoir. D'où l'importance de la prévention et du dépistage régulier. Et d'ailleurs, le recours au dépistage est de plus en plus important. Alors que ce soit des dépistages rapides hein, faits par les associations, que ce soit des dépistages en laboratoire de ville ou en CEGID, par exemple, dans un cadre hospitalier. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça dans la première émission ou dans une émission, il y a le dispositif sans ordonnance, donc de dépistage sans ordonnance en labo de ville. Et donc du coup, ce dispositif connaît une nette augmentation chez les 25-49 ans et chez les moins de 25 ans aussi, puisque le nombre a doublé en quelques mois, d'ailleurs, de recours à ce moyen-là.
Ah, c'est super encourageant. Oui. Okay. Et alors, dans le monde, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Est-ce qu'on a des données?
Alors, on a quelques données, en fait, qui sont fournies par l'ONU-SIDA. Donc, l'ONU-SIDA, c'est l'organisme international qui dépend de l'ONU et qui gère tout ce qui est SIDA, paludisme aussi. Et donc, en fait, on estime qu'en 2024, 1,3 million de personnes ont contracté le VIH. Et c'est quand même 40% de moins qu'en 2010. Donc, il y a quand même une évolution. Il y a moins de personnes qui se contaminent au VIH. Et on constate notamment une baisse de 56% en Afrique subsaharienne. Et tout ça, c'est dû aux améliorations des outils de prévention et des programmes de prévention qui sont faits dans les pays africains. Et d'ailleurs, un chiffre autour de la prévention de la transmission mère-enfant, en fait, et les programmes de prévention ont permis d'éviter 4,4 millions d'infections chez les enfants entre 2020 et 2024. Et concernant les personnes qui vivent avec le VIH, du coup, l'ONU-SIDA considère qu'il y a 40,8 millions de personnes qui vivent avec le VIH, dont 77% sont sous traitement, 73% en charge virale indétectable. Alors, c'est forcément un immense progrès de la santé publique, mais cela reste insuffisant pour endiguer la dynamique de contamination, puisque l'objectif pour les réduire, vraiment, c'est 95.
Le fameux 95.
Voilà, il y a 7 pays qui ont réussi à être à 95. C'est des pays africains. Je vous fais pas la liste là, on vous mettra la liste si vous voulez sur le site. En termes de décès, on compte encore des décès liés au VIH, 630 000 décès dans le monde, et c'est un chiffre stable en fait depuis 2010, alors en légère baisse, mais ça reste souvent stable. Et l'espérance de vie augmente aussi du coup en Afrique, hein, passant de 56,5 en 2010 à 62 ans en 2024.
Donc c'est des bonnes nouvelles.
Oui, c'est plutôt des bonnes nouvelles, même s'il y a une grosse zone d'ombre hein, sur les financements internationaux alloués à la lutte contre le VIH, notamment depuis que Trump est élu président des États-Unis, puisqu'il a coupé tous les crédits, enfin il a gelé en tout cas tous les crédits qu'il donnait, et donc ça met vraiment en péril les actions en Afrique par rapport à la prévention, par rapport au dépistage, par rapport à l'accès au traitement, et par rapport à l'accès aussi aux nouveaux outils de prévention comme la PrEP par exemple.
Ben merci énormément pour toutes ces informations, et on va vous mettre tous les chiffres et puis toutes les informations sur la page de l'émission Ondes Positives, donc sur radio-g.fr. Et donc, le combat contre le VIH n'est pas fini. La mobilisation des pouvoirs publics reste indispensable. Et donc, je rappelle, pour le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, retrouvez-nous, en fait, parce que je serai le 5 décembre au bar La Cage à Angers, puisque je ferai d'ailleurs du dépistage. Et oui, c'est un petit scoop. Donc, si vous voulez me rencontrer, j'y serai là. Voilà, et puis il y aura le fameux show drag de la House of Cocotte, donc j'ai hâte de voir ça. Et on rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions en passant sur le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Ondes Positives, ou sur notre Instagram, ONDP Radio G, ou par mail, ondp.radio-g@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez venir témoigner à l'émission.
Et on se retrouve dans 15 jours pour continuer d'échanger autour de la santé sexuelle et de la prévention. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Alima.
Merci Florian.
Et d'ici la prochaine émission, vous pouvez retrouver toutes les précédentes en podcast sur le site radio-g.fr, rubrique de l'émission Ondes Positives. Et en attendant,
prenez soin de vous,
dépistez-vous.